VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h à Lubumbashi. Bonjour à tous. La police congolaise a dispersé ce matin plusieurs milliers de partisans de l'opposant Moïse Katumbi, rassemblés autour et à l'intérieur du palais de justice de Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, d'après l'AFP. Candidat déclaré à la prochaine présidentielle, M. Katumbi devait être entendu par un magistrat du parquet dans le cadre d'une enquête pour recrutement de mercenaires. Peu avant 11h, heure locale, la foule a forcé les barrages de police pour occuper le bâtiment où devait avoir lieu l'audition. Le Forum économique mondial sur l'Afrique s'ouvre aujourd'hui donc à Kigali, au Rwanda, sous le thème « La connexion des ressources de l'Afrique grâce à la transformation numérique ». Maurice Mbogorane nous appelle de Kigali.
Les dirigeants vont échanger sur la diversification économique et pour une croissance inclusive. Mais les participants sont invités à tenir compte des changements technologiques rapides qui ont le potentiel de créer de nouvelles industries. Comme l'explique Elsie Kanza, directrice de la zone Afrique du World Economic Forum.
Nous avons besoin de la digitalisation pour pouvoir s'approcher de chacun. Il n'est pas possible de se développer avec les moyens traditionnels ou avec les techniques traditionnelles. Cela veut dire que nous devons utiliser la digitalisation comme outil pour aller plus loin.
Après avoir accueilli le championnat d'Afrique de Nations, CHAN 2016, et le Forum économique mondial sur l'Afrique qui va avoir lieu cette semaine, le Rwanda s'apprête à accueillir pas moins de 15 grandes conférences mondiales au courant de cette année 2016. Dont un sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali. Un pas de plus pour ce petit pays qui a l'ambition de devenir un centre de conférences internationales. Maurice Mbogorane, VOA Afrique, Kigali.
Les électeurs comoriens sont convoqués pour une présidentielle partielle et ils se rendaient donc en grand nombre aux urnes ce matin et sous très haute sécurité dans les bureaux de vote pour ce scrutin décisif afin de départager l'ex-putschiste Azali Assoumani et le candidat du pouvoir sortant Mamadou. Le second tour de la présidentielle au Comores avait été émaillé de violences, principalement sur l'île d'Anjouan, où des urnes avaient été saccagées et des personnes agressées dans des bureaux. Au total, 6305 électeurs enregistrés dans 13 bureaux de vote n'ont pu s'exprimer le 10 avril dernier, selon la Cour constitutionnelle, qui a donc ordonné de réorganiser le scrutin dans cette localité d'Anjouan. En Gambie, le principal parti fait peau neuve. Le principal parti d'opposition fait état de nouvelles arrestations parmi ses militants et sympathisants. Et les précisions tout de suite de Michel Joseph.
Un des responsables du Parti démocrate uni, UDP, Aladji Darbo, affirme que les personnes visées protestaient contre le maintien en détention d'une cinquantaine d'opposants arrêtés en rapport avec les manifestations des 14 et 16 avril derniers. Maintenus en prison depuis lors, ces derniers sont inculpés sous les chefs d'accusation de rassemblement illégal, d'incitation à la violence et de complot. Parmi les opposants en détention figure le leader de l'UDP, Ousseynou Darbo. Tous ont plaidé non coupables. Des témoins rapportent que des heurts avaient opposé lundi les forces de l'ordre et des manifestants pro-UDP près de la haute cour de Banjul et les arrestations avaient suivi quelques heures plus tard. Les manifestants brandissaient des banderoles où l'on pouvait lire notamment « Nous voulons la fin de la dictature » ou encore « Arrêtez les tueries ». Au pouvoir depuis son coup d'État de 1994, le président Yahya Jammeh dirige la Gambie d'une main de fer. Il est candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre.
Grève des magistrats au Niger, ils exigent des autorités de meilleures conditions de travail, mais aussi et surtout la réhabilitation de deux magistrats suspendus par le ministre de la Justice. Le mouvement largement suivi hier à la deuxième journée a du coup créer la paralysie du secteur de la justice dans le pays. Ayouba Hassan est le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger. Il se prononce sur le cas des juges suspendus.
Le ministre est tenu de rapporter cette décision de suspension-là pour mettre les collègues dans les droits. On leur reproche des faits dont normalement c'est la procédure judiciaire qui devrait quand même essayer de leur dire qu'est-ce qu'on leur reproche. Maintenant, et ça a passé qu'on leur reproche. Ils ont été suspendus jusqu'à l'expiration du délai de 5 mois. Rien n'a été fait. Donc on dit non. Ça, c'est de l'insécurité juridique. On ne peut pas rester dans ce cas-là. Si un ministre peut peut se lever et suspendre des magistrats et qu'il n'y a pas de poursuite disciplinaire contre eux. Je crois que c'est très grave. Donc, on ne peut pas tolérer. Donc, on a dit stop, il faut arrêter ça. Cette grève est suivie à 100%. On a fait l'évaluation tout à l'heure au niveau de toutes les juridictions, à commencer par Niamey. Donc, tribunal de Niamey, cour d'appel et les autres juridictions. Tout, c'est clair. Même des assises qui ont été prévues à Tillabéri n'ont pas eu lieu. Voilà. Donc, vraiment, la grève a été suivie parce que les magistrats ont compris. Ils n'ont même pas le choix.
Le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger. Les chefs traditionnels et imams du Cameroun sont réunis à Yaoundé pour examiner comment lutter efficacement contre le groupe terroriste Boko Haram. La réunion se tient dans un contexte de soupçons d'infiltration dans le pays des membres de Boko Haram par des chefs traditionnels et des imams. Reportage, Moki Edwin Kinseka à Yaoundé.
Oh Allah, nous te prions et te demandons d'éradiquer les sectes Boko Haram de notre pays.
200 leaders traditionnels et imams venus du nord Cameroun frontalier avec le Nigeria, réunis à Yaoundé, prient pour la paix au Cameroun. Parmi les clergés, Abdurrahman Ousmane, guide spirituel de Kerawa, ancien otage du groupe Boko Haram, explique qu'il y a des fidèles musulmans camerounais pris en otage par Boko Haram.
Dès qu'on vous amène, on vous hypnotise et on commence à vous donner au moins peut-être des drogues et tout ça là. On te prend en otage, c'est pour tout juste aller te manipuler, à accepter. C'est pour cela. Sinon, tu ne peux pas accepter toi-même étant, par exemple, comme étant quelque part un chef traditionnel. Tu te dis que tu vas accepter parce qu'on va te donner de l'argent et on va combattre. Et tu vois comment on tue tes gens, hein, ta famille. Comment tu peux accepter ça? Tu ne peux pas accepter.
Selon lui, de retour au Cameroun après leur libération, ces fidèles Camerounais recrutent des jeunes et leur proposent une somme de $500.
C'est les leaders de Boko Haram, les gens qui s'infiltrent là. Quand ils viennent seulement comme ça, ils disent, bon, ben, venez les enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire? Ils disent, oui, on n'a rien à faire. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez, on va vous donner au moins de l'argent. Et comme ça, vous irez au moins, vous allez être des soldats. Et c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'argent. Et finalement, vous voyez le résultat.
Le Conseil des dignitaires musulmanes et des leaders traditionnels a invité ses chefs de communauté et les clergés pour examiner des moyens pour arrêter l'infiltration de Boko Haram au Cameroun. Moussa Assabé, l'un des membres de dit conseil, a invité les autorités traditionnelles et les leaders musulmans de travailler en collaboration avec les forces de l'ordre et les autorités publiques. Selon lui, la pauvreté et le chômage sont les principales causes de recrutement de ces jeunes par Boko Haram.
Ceux-ci seraient très sensibles au discours de Boko Haram du fait de la pauvreté. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi même les populations locales du fait du manque, parce qu'ils n'ont rien et qu'ils se sentent un peu marginalisés au sein de la société. Ils pourraient être très sensibles au discours de Boko Haram. C'est-à-dire que si on lui propose, s'il a 10 enfants et qu'on lui propose 5 millions de francs pour qu'un seul de ses enfants ait placé les bombes, je pense qu'il serait prêt à envoyer un de ses enfants aller mourir parce qu'il prendrait les 5 millions pour prendre soin des autres. Voilà comment est-ce que les populations locales pourraient réfléchir.
La semaine dernière, le chef de l'État camerounais Paul Biya, en visite au Nigeria, a discuté avec son homologue Muhammadu Buhari pour mettre fin à cette activité barbare. Depuis 4 mois, Boko Haram n'a pas réussi une attaque massive dans les deux pays. Une indication que leur force de frappe a diminué. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Merci Moki. La police italienne a annoncé l'arrestation de 13 Somaliens soupçonnés d'avoir participé à un réseau de passeurs qui extorquaient de leurs concitoyens à peine débarqués sur les côtes de la péninsule avant de les aider à poursuivre leur périple vers l'Europe du Nord. Selon le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, les Somaliens représentent 9% de plus de 31 000 migrants débarqués en Italie cette année. Le chef du gouvernement tunisien, Habib Essied, a plaidé à Rabat pour un renforcement de la coopération avec le Maroc et l'Algérie pour lutter contre le terrorisme. La Tunisie est le pays du Maghreb le plus affecté par l'essor de la mouvance djihadiste.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au moins 34 personnes ont été tuées ce mercredi dans un attentat ayant visé un marché à Bagdad. L'attentat a été perpétré à l'aide d'une voiture piégée qui a explosé près d'un marché situé non loin du grand quartier chiite de Sader Siri, dans le nord de la capitale. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Et pour terminer, au Brésil, les sénateurs se préparent à écarter la présidente Dilma Rousseff du pouvoir pendant 6 mois en votant à la majorité simple l'ouverture d'un humiliant procès en destitution pour maquillage des comptes publics. Madame Rousseff serait alors remplacée par son vice-président Michel Temer, ancien allié devenu adversaire dans l'attente du jugement final des sénateurs et probablement jusqu'en 2018. Jean-Roger Billon, dans 50 minutes, un nouveau journal présenté par Henri Francisque. Pour ma part, bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.